Très bel après-midi, il est 13h. Le journal Xavier Demagny, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, au sommaire ce midi. Des églises gardées par des militaires, fête de la Toussaint, pas comme les autres pour les catholiques aujourd'hui. Célébration partout en France alors que la menace terroriste pèse. Nous serons à Nice dans un instant, 3 jours après l'attaque de la basilique Notre-Dame. La rentrée scolaire demain, 2 semaines après l'assassinat de Samuel Paty, le ministre Jean-Michel Blanquer précise une dernière fois comment doit se dérouler l'hommage au professeur de Conflans. À la une également, les petits commerces face au reconfinement. Le gouvernement doit aller recevoir aujourd'hui le MEDEF fait des propositions et nous serons au téléphone avec le patron du site Cdiscount. Il tend la main à ces petits commerçants. Nous serons également en Algérie, référendum aujourd'hui sur la réforme de la Constitution. Aux États-Unis, les pro-Trump bouillonnent à 2 jours de la présidentielle. Et puis le parcours du Tour de France 2021 dévoilé ce soir. À la fin du journal, la météo, de la pluie au nord, du soleil au sud. C'est presque un cliché. Nous sommes le dimanche 1er novembre. Et oui, déjà, c'est le journal de 13h.
France Inter.
Des églises sous surveillance pour célébrer la Toussaint. Menace terroriste présente 3 jours après l'attaque au couteau qui a fait 3 morts à la basilique Notre-Dame de Nice. Elle rouvrira d'ailleurs ce soir pour une messe de réparation à 18h. En attendant, les fidèles ont assisté ce matin aux premières messes dans les autres églises de la ville, entre appréhension et volonté de ne pas céder à la peur. À Nice pour France Inter, Boris Allier.
5 gendarmes, fusils à la main, sur le parvis de l'église. La scène aurait de quoi inquiéter, mais les Niçois s'y sont presque habitués.
C'est vraiment l'horreur, l'horreur. Mais que voulez-vous ? Il faut vivre avec, hein ? Et il ne faut pas se laisser faire, c'est tout.
Claudine ne pouvait pas manquer cette messe si particulière, tout comme Jeanne, une habituée de la paroisse.
Je pense qu'on est tous choqués, pas seulement en tant que Niçois, parce que c'est la deuxième attentat qui se fait à Nice, mais aussi en tant que chrétien. Et on va bien prier pour les victimes ce matin à la messe.
À la sortie, Thomas affiche un grand sourire.
Ça me donne encore plus de conviction, je me dis, il y a des personnes qui meurent pour ça. C'est pas d'une manière énervée, violente ou quoi, on est juste catho parce que ça nous rend heureux et en effet c'est quelque chose pour laquelle j'espère qu'on serait capable de mourir pour. Faut vivre dans l'espérance, faut se battre pour un monde meilleur. Et il y a une des béatitudes, c'est qui dit « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Je pense que ça veut tout dire.
Et ce soir à 18h, la basilique Notre-Dame rouvrira ses portes après le drame. L'évêque de Nice rendra hommage aux victimes au cours d'une messe spéciale, dite de réparation.
Boris Allier, à propos de la communauté catholique, hier le pape François s'est entretenu longuement avec le chef de l'État. Il a exprimé son soutien fraternel aux Français, indique l'Élysée, mais pas de déclaration particulière pour la France ce midi dans son traditionnel Angélus. On apprend ce matin à propos de l'attaque de Nice que la vie de l'assaillant n'est plus menacée. Il avait été blessé lors de son interpellation et hospitalisé. Il n'est toutefois pas encore en état de répondre à un interrogatoire. Nice, où l'enquête se poursuit. 2 gardes à vue supplémentaires, 2 hommes en lien avec les arrestations précédentes. Cela porte le total à 6 personnes entendues actuellement. Quant à la situation à Lyon, ce prêtre orthodoxe gravement blessé par arme à feu hier, quartier Jean Massé, un homme est toujours en garde à vue, mais là le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. La cloche sonnera à 8h demain matin dans les écoles de France. Rentrée scolaire avancée finalement alors que le ministre de l'Éducation avait proposé de la décaler pour laisser les enseignants préparer l'hommage à leur collègue Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné avant les vacances à Conflans-Sainte-Honorine. Sixtine Lys, ce matin, dans un entretien au Parisien, aujourd'hui en France, Jean-Michel Blanquer précise une dernière fois les choses.
Jean-Michel Blanquer revient d'abord sur le cafouillage autour de l'heure d'arrivée des élèves, d'abord annoncé à 10h pour que les enseignants puissent se préparer, puis rétropédalage, ce sera 8h comme d'habitude. Malgré ce petit changement d'horaire, l'hommage est bien entendu maintenu. 1 heure d'enseignement moral et civique consacrée à l'attentat peut être organisée par les enseignants avant la lecture de la lettre de Jean Jaurès et la minute de silence. Minute de silence qui ne se fera finalement pas collectivement dans la cour, crise sanitaire oblige. Le ministre se défend de l'avoir annulé par peur d'un dérapage pendant ce moment solennel. Par ailleurs, des documents de référence ont été mis en ligne ce week-end pour aider les enseignants. Autre publication, cette fois-ci à destination des élèves, une vidéo enregistrée avec l'équipe de France de football et dévoilée hier soir. Tolisso, Griezmann, Varane, Pavard témoignent des valeurs de la République et du soutien aux professeurs. Réception mitigé pour cette vidéo des Bleus qui a déjà fait plus de 600 000 vues sur Twitter.
Et l'enseignement moral et civique sera renforcé dès la rentrée prochaine, dit aussi Jean-Michel Blanquer. Il sera demain en visite avec le Premier ministre au collège de Conflans où enseignait Samuel Paty. Nous parlions de la Toussaint, c'est aujourd'hui et c'est en général un temps fort dans l'année d'un fleuriste à l'occasion de la fête des morts, ça c'est demain. Les visites dans les cimetières sont d'ailleurs autorisées jusqu'à ce soir malgré le confinement et les fleuristes, eux aussi, encore ouverts pour quelques heures. Que ce soit pour orner une tombe ou toute autre chose, visiblement ce week-end, les boutiques ne désemplissent pas comme au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, Solène Delarquier.
Près des Halles, le comptoir des fleurs ne désemplit pas. Martine regarde les plantes en pot, baguette à la main.
Je suis sortie chercher mon père et dans l'idée de passer devant le cimetière où est enterré mon père, je suis venue voir si je pouvais acheter une coupe, effectivement.
Pendant ce temps, Catherine sort avec un bouquet dans les bras.
C'est le dernier jour d'ouverture et j'en ai profité pour venir chercher un bouquet pour l'offrir à ma maman. C'est un geste de soutien aussi envers les fleuristes.
Car à partir de ce soir, Jérôme Lartigot ne pourra plus accueillir les clients à cause du reconfinement, mais il ne fermera pas boutique.
La Fédération Française des Fleuristes nous a communiqué qu'on pouvait ouvrir en drive et en retrait de commande. Les clients pourront choisir à travers les vitrines ou sur commande par téléphone, on pourra aussi livrer nos clients. Donc un peu comme le dernier confinement, mais... Là, ce coup-ci, nos fournisseurs restent ouverts, ça sera un peu moins compliqué.
Pendant le premier confinement, Jérôme Lartigot et son épouse ont perdu 45 000 euros, 10% du chiffre d'affaires. Cette fois-ci, le reconfinement tombe sur une période habituellement calme. Le comptoir des fleurs n'ouvrira donc que le matin et les trois salariés seront au chômage partiel.
Nous, on va tester l'activité en espérant pouvoir reprendre tout le monde au plus vite, et surtout pour les fêtes de fin d'année.
C'est en décembre que ce fleuriste réalise ses meilleures ventes.
Solène Delarquier, reportage France Bleu Pays Basque, les petits commerçants donc face au confinement. Une réunion est prévue aujourd'hui avec le Premier ministre Jean Castex. Ces derniers jours, les commerces dits non essentiels ont fait entendre leur colère. Certains maires ont même signé des arrêtés pour leur permettre d'ouvrir quand même. Dans le journal du dimanche ce matin, Anne Hidalgo annonce une initiative commune à plusieurs villes, dont Paris évidemment, pour autoriser la réouverture des librairies indépendantes. De son côté, le MEDEF indique vouloir faire des propositions au gouvernement pour permettre de rouvrir certains de ces commerces dont la survie d'un bon nombre est menacée actuellement. Dominique Carlac, vice-présidente de l'organisation patronale, était sur Inter ce matin.
Il y a un vrai sentiment d'injustice sur les commerces. Si on leur dit, finalement, tu vas pas ouvrir au moment de Noël où tu fais ta recette, donc faire ces cadeaux de Noël en bas de chez soi, c'était quelque chose qui était de nature finalement à redynamiser un peu d'activité. Faire ses cadeaux de Noël sur Amazon, c'est ni citoyen et surtout c'est à la clé des pertes d'emplois sur notre sol français. Il faut pas qu'on tombe dans cette espèce de dichotomie entre il y a un commerce qui va très bien et hurra, et puis des petits commerces qu'on cacherait qui iraient très mal. Donc nous, on va faire des propositions pour dire en quoi c'est possible de combiner une activité économique et la continuité de l'activité économique en période de pandémie. Parce que malheureusement, on l'a compris aujourd'hui, la pandémie ne va pas s'arrêter dans 4 semaines.
Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, interrogée par Patricia Martin dans le 6-9. Ce matin. Alors hier, l'une des réponses du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était, je cite, « la digitalisation de ces petits commerces, leur permettre de vendre en ligne plus facilement ». Il a évoqué un partenariat notamment avec La Poste. Avec nous au téléphone dans ce journal, Emmanuel Grenier, patron du site de e-commerce français Cdiscount. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce midi, vous souhaitez tendre la main aux petits commerces, si je comprends bien, vous leur offrez vos services pour qu'ils vendent leurs produits sur votre plateforme ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on leur permet de venir vendre directement sur Cdiscount leurs produits et proposer à leurs clients de venir les chercher directement dans les magasins.
Ça s'adresse à quel type de commerce ?
À tous les commerçants et ça sera gratuit. Ça nous semblait important parce qu'on est conscient de la situation et d'inquiétude. Il y a plus de 200 000 commerces qui sont fermés aujourd'hui en France. Donc on est conscient de cette inquiétude-là. Et donc notre sujet, c'était de se mettre au service des commerçants français, de l'économie française, parce qu'on est une entreprise française, et c'est important pour nous que toute l'économie et l'écosystème français fonctionnent le mieux possible. Ça sera gratuit, et on mettra en place une équipe dédiée, justement, pour les accompagner à démarrer des ventes en ligne, parce que la digitalisation, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, dans l'urgence, mais aussi pour les prochains mois et les prochaines années.
En un mot, comment on fait pour s'inscrire, pour utiliser votre outil ?
Alors, c'est très simple. Vous allez dans votre, vous allez sur Cdiscount ou alors dans votre moteur de recherche et vous tapez Cdiscount commerçant ou Cdiscount marketplace. Vous allez arriver sur une page d'explication. On va vous demander votre nom, votre numéro de téléphone, votre mail. Vous pouvez même remplir le reste des informations. Et si vous avez une question, eh ben, on vous rappelle. Et dans la journée, vous avez, qu'est-ce que je dis dans la journée? Dans l'heure, vous pouvez vous inscrire et vous commencez vos ventes dans l'heure qui, dans l'heure qui suit, en fait.
Okay.
Et vous proposez le retrait. Soit l'expédition chez les clients, soit le retrait dans vos magasins.
Quand vous dites c'est gratuit, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de commission. Vous ne prenez absolument aucune commission sur les transactions qui seront faites sur votre site.
Pour tous les retraits en magasin, on ne prend aucune commission, et ça pendant 6 mois, pendant les 6 prochains mois. Ça ne s'applique pas seulement à cette période-là, parce qu'on on pense que c'est un processus qui est un processus de moyen terme aussi, au-delà de la situation d'urgence. Et donc c'est important qu'on mette le pied à l'étrier à tous les commerçants.
Emmanuel Grenier.
Il n'y a que 30% des entreprises aujourd'hui qui ont un site internet et il faut que ça s'accélère et on veut les aider à faire ça.
Emmanuel Grenier, si je puis me permettre, est-ce que c'est pas un peu un pacte avec le diable pour ces petits commerces? Alors vous n'êtes évidemment pas Amazon, mais vous êtes quand même un géant de la vente en ligne qui n'a pas de boutique, qui n'a pas de commerce.
Alors, il faut qu'on arrête, je pense qu'il faut qu'on arrête d'opposer sans arrêt le commerce physique et les commerçants physiques et le commerce en ligne à un moment donné. Et on le voit depuis plusieurs années, c'est quand même des commerces qui se complètent, les clients vont à la fois dans les magasins et sur Internet, on parle d'omnicanalité, de multicanalité. Donc ce qui est important pour ces commerçants, c'est qu'ils puissent vendre dans leur magasin, et ça c'est fondamental, et je souhaite que ça ouvre et ouvre plus vite bien sûr, mais aussi qu'ils vendent en ligne. Les deux sont complémentaires puisque les clients achètent aux deux endroits aujourd'hui.
Une toute dernière question, je vous demande une réponse rapide s'il vous plaît. Cdiscount appartient au groupe Casino et ce midi Bruno Le Maire dit que les rayons de produits non essentiels pourraient devoir fermer. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense la même chose que pour les commerçants français, c'est-à-dire, et je commenterai pas la décision du gouvernement, mais c'est une mauvaise nouvelle d'une manière générale pour l'ensemble des commerçants français. Et moi, j'espère qu'une chose, c'est que ça réouvre le plus vite possible.
Emmanuel Grenier, PDG du site de vente en ligne Cdiscount, invité ce midi du 13h d'Inter. Merci à vous, bonne journée.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demani.
Je voulais ajouter ce midi que Bruno Le Maire précise que les grandes surfaces donc pourraient devoir fermer les rayons de produits non essentiels et puis que le secrétaire d'État Gabriel Attal sur France Inter précise que les arrêtés des maires pour ouvrir les commerces non essentiels, eh bien ces décrets, ces arrêtés municipaux sont moins importants que les décrets gouvernementaux. Les décrets gouvernementaux l'emportent sur ces arrêtés. 13h12, les Algériens appelés aux urnes aujourd'hui, référendum sur la réforme de la Constitution promise par le président Tebboune lors de son élection en décembre. Mais le texte est aujourd'hui contesté par l'opposition politique et populaire et notamment le Hirak, ce mouvement qui avait entraîné le départ d'Abdelaziz Bouteflika, comme l'explique le militant franco-algérien Samir Yayaoui.
Cette constitution qui a été écrite par ces pseudo-experts nommés par le chef d'État, elle est dans la continuité. On est toujours dans ce toilettage de cette constitution de 1976 faite par un colonel, pour des colonels et des généraux, et ça continue. On est face à une constitution qui donne les pleins pouvoirs à un seul homme, et derrière, tout ce qui est militaire, tout ce qui est armé, tout ce qui est derrière le rideau, continue à gérer ce pays. Voilà la réalité de la politique algérienne qui dure depuis 58 ans et qui nous a emmené à une équation aujourd'hui intenable. Où on fait allégeance au pouvoir ou on se retrouve face à une justice aux ordres. C'est ça la réalité.
Samir Yayaoui avec Valérie Crovat, référendum aujourd'hui donc en Algérie sur la réforme de la Constitution. En Côte d'Ivoire, l'attente des résultats de la présidentielle, le président sortant Alassane Ouattara brigue un troisième mandat très controversé. On ne connaît toujours pas le taux de participation. L'élection de la semaine à venir, ce sera évidemment la présidentielle aux États-Unis. Dernière ligne droite à J-2 à présent. Hier soir, Joe Biden a fait meeting commun avec Barack Obama. Donald Trump, lui, doit encore enchaîner 5 meetings aujourd'hui, 3500 kilomètres à avaler en une seule journée. Les sondages prédisent toujours la défaite du président sortant, mais ses supporters ne baissent pas les bras, bien au contraire. Certains ont même créé la Trump House, un temple aux couleurs de l'Amérique dédié aux candidats républicains, lieu de rendez-vous des partisans dans un état-clé. Envoyé spécial d'Inter en Pennsylvanie, Claude Guibal.
Sur le bord de la route, on ne voit qu'elle, la Trump House, avec ses 3 étages peints aux couleurs du drapeau et son Trump de 5 mètres de haut posé devant sur le gazon. On vient vraiment de tout le pays pour s'y faire prendre en photo.
Je me sens mieux pour notre pays. Il a aidé les gens à se redresser. Tout le monde se sent mieux maintenant.
can we get you? Would you like a yard sign?
Alors dedans, c'est la distribution, casquettes, t-shirts, toutes tailles, toutes couleurs, et puis les drapeaux.
We have Keep America Great or we have no more bullshit.
No more bullshit, fini les conneries, citation de Donald Trump lui-même, c'est ce drapeau-là que tout le monde s'arrache. Là, c'est la propriétaire, Leslie Rossi, une supportrice de la première heure qui se souvient pourtant lorsqu'elle a commencé à marquer son soutien à Trump il y a 4 ans.
On m'a dit que je bousillais le nom de ma famille, qu'il fallait que j'arrête. Et j'ai vu arriver des gens qui autrefois allaient bien et qui là souffraient. Ils détestaient Hillary Clinton, mais ils n'aimaient pas Trump non plus. Je leur disais, c'est pas l'homme qu'il faut aimer, c'est ce qu'il va faire.
Leslie, depuis, est devenue une notable, interviewée par toutes les télés, élue déléguée pour les conventions, invitée par Trump à la Maison Blanche. Sa vie, dit-elle, a changé. Comme beaucoup d'électeurs de Donald Trump, elle a le sentiment d'être reconsidérée. Mais si c'était Joe Biden qui gagnait l'élection ?
Question idiote, ça n'arrivera pas.
À La Trobe, Pennsylvanie, Claude Guibal, France Inter.
La présidentielle américaine à suivre évidemment sur notre site franceinter.fr et puis je vous mets dans l'oreille ce rendez-vous la nuit américaine, nuit de mardi à mercredi avec Fabienne Sintès et tous nos reporters sur place pour suivre cette présidentielle aux États-Unis. En bref, au Québec, un homme déguisé d'une tenue médiévale et armé d'une épée a fait 2 morts et 5 blessés. Il a été interpellé. Le bilan s'alourdit en Turquie, 51 morts après le séisme en mer Égée vendredi. Et puis aux Philippines, 300 000 habitants ont été évacués après le passage d'un typhon le plus puissant de l'année. On déplore déjà 4 décès. C'est une véritable star en Suisse. Le PPDA Helvète est un quasi inconnu pour les Français, mais son transfert était l'un des événements de la rentrée télé. L'ex-présentateur de la RTS, la télé publique suisse, Darius Rochebain, arrivé en septembre sur LCI, est au cœur d'une enquête sur du quotidien Le Temps. Il est accusé de harcèlement sexuel et de comportement déplacé. À Genève, pour France Inter, Jérémy Lanche.
L'enquête du temps sur les cas de harcèlement sexuel à la RTS ne concerne pas que Darius Rochebain, mais sur la 30aine de témoignages récoltés, plusieurs mettent en cause l'ancien présentateur vedette. C'est le cas d'une employée qui raconte comment il a tenté de l'embrasser de force, une autre qui l'accuse d'avoir pris sa main pour la placer sur ses parties génitales. Le temps évoque aussi les propos salaces récurrents qu'aurait tenus Darius Rochebain dans les locaux de la RTS et en dehors, en particulier sur les réseaux sociaux où le présentateur aurait utilisé de fausses identités pour converser avec de jeunes hommes, souvent des journalistes débutants et là encore de façon très déplacée. Du côté de la RTS, on se dit consterné si les faits sont vérifiés, mais la chaîne publique assure ne pas avoir enterré une quelconque affaire Darius Rochebain. Quant au présentateur, il se dit choqué par le récit malveillant du journal Le Temps et se réserve le droit d'entamer des poursuites judiciaires. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Darius Rochebain qui indique qu'il se retire de l'antenne pour quelques jours, il conteste ses accusations. Un mot du coronavirus. Et de la situation sanitaire chez nos voisins. Nous en parlions dès hier. Le Royaume-Uni se reconfine comme la plupart des pays européens. Reconfinement à partir de jeudi, annonce le Premier ministre Boris Johnson, et ce pour au moins 1 mois. Et puis après l'Italie, c'est en Espagne que de nouveaux affrontements ont eu lieu contre les restrictions pour freiner l'épidémie. Plusieurs dizaines de personnes interpellées après des actes de vandalisme et de pillage la nuit dernière. Du sport pour terminer ce journal avec la fin de la 9e journée de Ligue 1 de foot. Saint-Etienne-Montpellier, c'est en ce moment, avant Monaco, Bordeaux tout à l'heure et Lille-Lyon en clôture à 21h. La Formule 1 avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Valtteri Bottas en pole position, Pierre Gasly le français 4e et Mercedes en passe de remporter le championnat constructeur. Et enfin le Tour de France cycliste. À peine une édition terminée, le parcours de la prochaine grande boucle sera révélé ce soir. Annonce retardée en raison du nouveau confinement, ça se passera dans l'émission Stade 2. Mais le tracé n'est jamais vraiment tenu 100% secret, Fanny Lechevet. Estrier, fuite, rumeur et une certitude, le départ de Brest en Bretagne le 26 juin.
Oui, la Bretagne où le peloton passera même ferrarissime 4 jours. Christian Prudhomme l'avait annoncé en juillet dernier. Il y aura une étape pour chaque département breton, une manière de remercier la région d'avoir accepté d'accueillir le grand départ à la dernière minute après le désistement de Copenhague. Un tour 2021 qui, selon France Bleu Mayenne, marquera aussi le retour en force du contre-la-montre dès la première semaine. Le président du département de la Mayenne a en tout cas déjà déployé une banderole. La Mayenne aime le tour à l'aval. Quant à ceux qui doutent de la population régularité de l'épreuve et malgré le contexte sanitaire. ASO souligne avoir reçu cette année quelques 300 candidatures. Les tout derniers repérages ont été bouclés à la mi-octobre avec une question. Après les critiques de plusieurs élus écologistes durant le dernier tour qu'ils jugent polluants et rétrogrades, y aura-t-il des communes vertes parmi les villes de départ et d'arrivée du Tour 2021? Réponse ce soir à 20h.
Le Tour de France 2021 départ le 26 juin, si tout va bien, et franchement on l'espère, pour se terminer le 18 juillet sur les Champs-Élysées.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Les prévisions météo des prochaines heures, Jean-Michel Golinski, Météo France.
De la pluie au nord, du soleil au sud pour cette journée de la Toussaint, avec donc un fort contraste entre le ciel perturbé circulant au nord d'un axe Gironde-Limousin-Bourgogne-Franche-Comté, poussé par un vent de sud-ouest très turbulent du nord de la Loire à la Belgique, et le temps sec, calme et ensoleillé du sud-ouest aux Alpes, mais avec des nuages bas souvent plus tardifs à évoluer sur les littoraux de la Corse et du golfe du Lion à la côte d'Azur. Les températures douces pour la période vont généralement se situer entre 17 et 20 degrés, un peu plus dans le sud-ouest, jusqu'à 23 prévus sur le Pays Basque. Demain, toujours dans la douceur, maintien du soleil sur les régions méridionales et d'un temps pluvieux et venteux sur une large moitié nord du pays, avec à noter à partir de mardi une baisse significative des températures qui va déjà commencer à se faire sentir demain sur le quart nord-ouest du pays.